France Culture, il est 8h passé de 30 secondes. Le journal Alexandra Dubouchereau. Bonjour Alexandra.
Bonjour. Quand la diplomatie laisse place à la franchise, c'est un peu l'ambiance ce week-end au Québec. Les dirigeants du G7 s'affrontent sur les questions de commerce international. Pas sûr qu'ils accouchent d'une déclaration commune cet après-midi. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial.
Sommet du G7 au Canada et sommet de l'OCS en Chine. Celui-ci réunit la Chine, la Russie, l'Inde notamment. Et cette année, le président iranien est un invité très symbolique.
Le Nicaragua s'enfonce dans la crise. Plus de 130 morts depuis le début des contestations contre le président Ortega qui manie l'art du double langage, dénonce Amnesty International.
Jean-Pierre Bemba acquitté. Décision surprise des juges d'appel de la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président congolais avait été condamné à 18 ans de prison en première instance pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
En France, Laurent Wauquiez tente de réveiller l'appareil militant chez les Républicains. Distribution de tracts ce week-end, mais le petit document a des accents identitaires. Il crie même dans son propre camp, nous dira Stéphane Robert.
Et puis, nous retrouverons notre invité de deuxième heure, notre invité Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. Elle est présidente du jury du concours d'éloquence contre le sexisme qui aura lieu à la Maison de la Radio et ce sera demain.
La grande question ce samedi, c'est y aura-t-il une déclaration commune à l'issue du G7 ? Depuis hier, les dirigeants européens, américains, canadiens et japonais sont réunis dans un luxueux hôtel de la Mambé au Québec, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Malgré les rencontres et réunions de travail hier, l'ambiance est crispée. Sur fond de début de guerre commerciale, les tarifs douaniers américains ne passent pas. Isabelle Labéry suit ce sommet pour France Culture.
Un diplomate qui a participé à ces négociations explique que c'était un moment inhabituel de franchise pour un sommet du G7. En fait, Donald Trump a mis les pieds dans le plat, tout simplement, en déroulant de manière très claire, très vigoureuse, tous les reproches qu'il nourrit à l'égard des pays du G7. Une longue diatribe sur des règles commerciales qu'il juge, vous le savez, défavorables pour les États-Unis. Alors de part et d'autre, eh bien, on a sorti les chiffres de la balance commerciale, on a comparé, expliqué les Européens, rappelant qu'eux aussi subissaient l'impact des mesures protectionnistes américaines. Le ton est resté courtois mais ferme et cette séance salutaire a finalement permis de crever les abcès.
Au terme de la journée, donc Isabelle, en façade tout du moins, tout allait bien dans le meilleur des mondes.
Oui, en tout cas, le point de rupture a été évité, ça c'est sûr. Donald Trump a même fait bonne figure pour la photo de famille et tout le monde est tombé d'accord pour que dans les 15 jours qui viennent, des équipes se parlent au niveau technique comme au niveau politique. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il y aura un accord demain, mais que le dialogue se poursuit. Et de part et d'autre, le ton est devenu beaucoup plus positif. Écoutez Emmanuel Macron au début de son entretien avec le président américain.
I wanted to thank President Trump. I think we had a very open and direct discussion this afternoon.
En anglais, le chef de l'État rappelle que la discussion a été ouverte et directe, mais que, au-delà des désaccords, il a senti une vraie volonté de parvenir à un accord gagnant-gagnant. En retour, le locataire de la Maison Blanche n'a pas non plus été avare de compliments.
Ça fait des années que les États-Unis ont un gros déficit commercial avec l'Union européenne, mais on essaie de le régler. Et pour ça, Emmanuel a été très utile. On va aboutir à quelque chose et je pense que ça sera très positif.
Et s'il n'y a pas de communiqué commun demain dans la grande tradition des réunions du G7, au moins tout est fait jusqu'au bout pour sauver les apparences.
Isabelle Labéry au micro de Matteo Maestrachi pour Radio France. Donald Trump lui partira dès ce matin pour Singapour pour préparer un autre sommet, celui avec Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen prévu mardi.
Et alors que la plupart des commentateurs européens s'intéressent à ce qui se passe à l'ouest au Canada, vous tournez vos regards vers l'est.
Oui, un autre sommet se tient ce week-end dans une ville portuaire chinoise, Qingdao, à l'est du pays. C'est le sommet de Shanghai, il existe depuis 17 ans. Il réunit la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et quatre pays d'Asie centrale, autant dire, là aussi, de grandes puissances. Elles pèseront autant que le G7 en 2050, 40% de la richesse mondiale. L'Iran aimerait bien y entrer. Le pays a déjà le statut d'observateur et en plein conflit ouvert avec les États-Unis sur l'accord sur le nucléaire. Le président Rouhani sera sur place. Il doit rencontrer son homologue chinois. Les précisions de Dominique André à Pékin.
Officiellement, Hassan Rouhani n'a qu'un poste d'observateur dans cette réunion qui rassemble des chefs d'État comme le chinois Xi Jinping et le russe Vladimir Poutine, plus les dirigeants de pays d'Asie centrale et du Sud. Mais sa présence a un sens particulier. Monsieur Rouhani est à Tsingtao, sur la côte est de la Chine, pour obtenir un soutien diplomatique de la part des Chinois et des Russes face à Donald Trump. La Chine et la Russie sont signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire et ont des intérêts économiques en Iran. Hassan Rouhani veut savoir si Xi Jinping et Vladimir Poutine vont maintenir leur présence commerciale en Iran en dépit des sanctions unilatérales que les Américains imposeront aux sociétés étrangères qui continueront de commercer avec le régime de Téhéran. Les fameuses sanctions à bras longs, comme les appellent les Chinois, ne devraient pas empêcher la Chine de poursuivre son objectif, faire arriver la route de la soie en Iran, comme l'a prévu Xi Jinping. Cette semaine, la porte-parole de la diplomatie chinoise, Madame Roy, ancienne ambassadrice de Pékin en Iran, déclarait que, contrairement aux États-Unis, la Chine ne reviendra pas sur sa promesse. Si tel est le cas, les entreprises chinoises profiteraient alors du retrait des firmes américaines et européennes, comme PSA ou Total, menacées de sanctions par la Maison-Blanche.
Dominique André, correspondante de France Culture en Chine, l'Église au secours du Nicaragua. Les évêques du pays ont présenté hier au président Daniel Ortega une proposition pour démocratiser le pays. Ils disent espérer une réponse le plus tôt possible, alors que l'on compte déjà 134 morts depuis le début des manifestations qui secouent le pays depuis le 18 avril. Malgré le recul du chef de l'État sur son projet de réforme des retraites, la contestation ne faiblit pas. Amnesty International pointe le double langage de Daniel Ortega. À écouter sa présidente Geneviève Garrigos.
Depuis le début, on constate d'un côté, avec les opposants et aussi la conférence des évêques, une recherche de solutions à la crise, et de l'autre côté, un Ortega qui tient un double discours où à chaque fois qu'il prône le dialogue, où il dit qu'il va trouver une sortie, finalement, il profite pour réprimer encore plus sévèrement. Et on l'a vu notamment le 30 mai, quand il y a eu les marches des mères, des familles des étudiantes disparues à l'université de Managua, où il recevait la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour justement mener un processus d'enquête, des enquêtes sur ce qui s'était passé, et en même temps, il y avait une répression extrêmement sévère, là encore à balles réelles, sur les manifestants dans les universités. Et c'est ce double langage qui aujourd'hui fait que la population au Nicaragua est excédée et demande l'arrêt immédiat de ces violences.
Et ça dans les principales villes du pays ?
Ça couvre les principales villes des pays et malheureusement, on voit régulièrement des jeunes qui sont assassinés au cours de manifestations, dans les marges, dans les occupations d'universités. Et c'est vraiment un pays tout entier qui demande le départ de Daniel Ortega aujourd'hui.
Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, jointe par Nadine Epstein. En République démocratique du Congo, l'opposition salue l'acquittement en appel de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale hier. L'ex-chef de guerre, ennemi juré du président Kabila, avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les tueries, les viols et les pillages de 2002 et de 2003 en République centrafricaine. Le verdict a surpris les victimes et les associations comme la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Florent Gel est le directeur de la FIDH pour l'Afrique.
Ce verdict en appel est un mauvais jour pour la justice internationale et pour toutes les organisations qui accompagnent les victimes, qui luttent pour identifier les responsables, parce que c'est le symbole même que, après 15 années d'enquête, de bataille judiciaire, les puissants peuvent gagner. La Cour n'a pas réussi à prouver que Jean-Pierre Bemba était le chef hiérarchique de ces milices qui ont commis ces crimes en Centrafrique et autour de Bangui et à Bangui en 2002 et 2003. Ça porte un coup très rude à un combat qui est long, difficile et ardu et très technique pour obtenir justice pour les milliers et les millions de victimes à travers le monde de la barbarie, des crimes de guerre et de ces soudards qui aujourd'hui pillent, tuent et violent en toute impunité. Et donc aujourd'hui, est-ce que la justice internationale n'est pas un petit peu morte avec ce jugement ?
Florent Gel, directeur de la FIDH Afrique, joint par Marion Lefebvre. Pour l'instant, Jean-Pierre Bemba reste en prison car elle est condamnée dans une autre affaire. En Afghanistan, les talibans annoncent ce matin 3 jours de cessez-le-feu avec les forces afghanes pour la fin du ramadan. C'est une première depuis 2001 dans le pays et ça intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan Ashraf Ghani.
France Culture, 8h10, suite du journal par Alexandra Dubouchereau. En France, c'est le printemps des Républicains.
C'est en tout cas le nom donné par Laurent Wauquiez à ce grand week-end de mobilisation pour son parti. Plusieurs événements et manifestations sont prévus partout en France. Et puis il y a la distribution de ce tract intitulé « Pour que la France reste la France ». Il doit être distribué à 1,5 million d'exemplaires. Le problème, c'est qu'il ne passe pas auprès de tout le monde chez les Républicains. Et pour cause, Stéphane Robert, cette petite feuille reprend les arguments du Front National.
C'est un week-end au cours duquel chacune des fédérations de Les Républicains est invitée à proposer des événements pour rassembler les militants, des réunions publiques, des cafés politiques, où les cadres les plus en vue du parti sont appelés à intervenir. Et puis des distributions de tracts sont organisées sur les marchés afin de réveiller l'appareil militant. Et ce sont précisément ces tracts, édités pour l'occasion, et tirés à 1,5 million exemplaires qui ont suscité de nombreuses critiques en interne. Des tracts aux accents très identitaires, où l'on peut lire qu'il y a trop d'immigrés en France, ou que le risque terroriste n'a jamais été aussi élevé. Et tout ça, disent encore ces tracts, relèverait en partie de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui ferait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour endiguer ces menaces. Bref, ces accents identitaires reprennent point par point les arguments du Front National et ont fortement irrité la droite centriste, incarnée notamment par les proches d'Alain Juppé. Les proches de Laurent Wauquiez, quant à eux, évitent de critiquer, mais sous couvert d'anonymat, ils émettent des doutes sur cette dérive vers l'extrême droite initiée par le nouveau patron. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur tract qu'on ait pu faire, dit l'un d'eux. Il aurait pu être un peu moins centré sur les questions identitaires, parce que ce message qu'on envoie, certes, va contenter nos militants les plus radicaux, mais il va en faire fuir beaucoup d'autres. Et ce proche de Laurent Wauquiez de conclure, mais que voulez-vous ? Ce dont on a besoin aujourd'hui à LR, c'est d'exister, c'est de se faire entendre dans les médias, et c'est précisément le but de cette opération.
Stéphane Robert pour France Culture. Après 9 jours de débat, les députés ont achevé cette nuit l'examen du projet de loi Élan sur le logement. L'une des dernières mesures votées hier soir concerne les locations type Airbnb. Les propriétaires devront désormais déclarer auprès des mairies toutes les locations réalisées sur une année. Sinon, c'est l'amende de 5 000 à 10 000 euros. Mesure saluée dans la foulée par les professionnels de l'hôtellerie qui réclamaient de telles sanctions depuis longtemps. La loi Élan devrait être votée mardi dans l'hémicycle avant de passer au Sénat. Nouvelle grève chez Air France, l'intersyndicale appelle à cesser le travail du 23 au 26 juin. Elle réclame toujours une hausse des salaires gelés depuis 7 ans. La COP21, c'était il y a 2 ans et demi déjà. Depuis, le soufflet est un peu retombé. C'est en tout cas ce que constatent et dénoncent plusieurs ONG comme Alternatiba. Elle veut nous réveiller aujourd'hui. Une dizaine de militants partent cet après-midi de la place Stalingrad à Paris, direction Bayonne, à vélo, 5800 km, 200 étapes dont de petit passage en Suisse, en Belgique et en Allemagne. Et 4 mois donc pour boucler ce tour destiné à mobiliser les Français contre le changement climatique. Écoutez les explications de Cécile Marchand, c'est la porte-parole d'Alternatiba.
Pour pouvoir relever le défi climatique, nous, notre constat, c'est qu'il faut développer les alternatives, c'est absolument nécessaire. Mais on n'a plus le temps d'attendre une vingtaine d'années, le temps qu'elles se développent, etc. Et donc, il faut aussi lutter en face de ça contre tous les projets qui vont potentiellement à l'encontre de nous, tout ce modèle de société qu'on veut faire émerger. Et donc promouvoir un mouvement de résistance non violente, donc ça peut être s'opposer, ça peut être la non-coopération, par exemple aller pousser des banques privées comme la Société Générale à revoir leur politique pour qu'elles arrêtent de financer les énergies fossiles. Ça peut être s'opposer au projet de Total qui veut reconvertir sa raffinerie de la Med en bioraffinerie à l'huile de palme.
Quand on parle climat et de lutte contre le réchauffement climatique, ça prend fatalement un peu maintenant, ça doit prendre ce chemin-là.
En fait, il est nécessaire que les gens fassent les deux. Il est aussi absolument nécessaire de continuer à développer les alternatives et faire émerger les énergies renouvelables, une finance différente, un mode d'alimentation différent. Mais étant donné qu'il existe toujours aujourd'hui des projets totalement à contresens de l'histoire, vu l'urgence qu'il y a pour relever le défi climatique et la marge de manœuvre qui nous reste pour rester sous les 1,5 degrés qui se réduit de plus en plus, dans ce contexte d'urgence, il est absolument aussi nécessaire de s'opposer et de former ce mouvement radical, populaire et non violent pour le climat.
Céline Marchand, la porte-parole d'Alternatiba ONG. Au micro de Véronique Rébérotte, les cyclistes du Tour Alternatiba partiront à 16h30 de la place Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Le temps, il y a des orages au programme ce samedi, d'abord dans l'Ouest ce matin. 17 départements sont sous vigilance orange. Ambiance orageuse qui touchera donc une grande partie du pays dans la journée. Les températures 15 degrés à Cherbourg en fin de matinée, 21 à Paris, 23 à Bordeaux et 25 à Fréjus.